Il y a deux niveaux de renseignement. Il y a un niveau en quelque sorte un peu policier qui, comme dans la société marocaine, est mené par ce qu'il faut bien appeler des indicateurs, des mokaddem. Au fond, il y a à peu près un mokaddem au Maroc pour une centaine d'habitants, des sortes de chefs de quartier qui ont une petite fonction administrative dans la délivrance des papiers aux administrés marocains. Puis au-dessus, évidemment, il y a les services de renseignement extérieur, c'est-à-dire ce qu'on appelle au Maroc la DJED. C'est de l'espionnage assez classique. On considère qu'à peu près un fonctionnaire sur deux de la DJED travaille en France. Il y a une habitude très ancienne qui est prise par les services de renseignement espagnols ou français, de travailler avec eux, d'échanger à la fois sur la délinquance, sur la drogue, sur les questions politiques, sur l'islam, sur la gestion de l'islam et des différents courants. Et encore une fois, c'est du renseignement essentiellement humain et beaucoup de citoyens marocains considèrent que ça fait partie de leur travail, ou en tout cas que la stabilité de l'État marocain et la défense de la sauvegarde des intérêts marocains à l'étranger passent aussi par leur loyauté vis-à-vis de l'État.
Vous avez évoqué la coopération entre services marocains et services français. De quand date-t-elle et comment fonctionne-t-elle?
Écoutez, on peut dire qu'elle remonte à la période coloniale. Il ne faut pas oublier que les services extérieurs marocains ont été créés par le général Oufkir. Le général Oufkir était un officier de l'armée française qui est passé au service de son sultan, de son roi. C'est quelque chose qui remonte donc à la guerre froide, qui remonte à la colonisation, qui est très ancien et qui s'est perpétué de génération en génération, puisque notamment les gens qui dirigent les services marocains ou l'armée marocaine aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, ont fait des stages en France, des stages de formation. C'est d'ailleurs pour ça que la crise entre la France et le Maroc qui était survenue l'année dernière avait créé beaucoup d'émoi, parce que du jour au lendemain, les Marocains avaient cessé de donner des renseignements, notamment en matière de terrorisme. Évidemment, le Maroc, du fait de l'importance de son immigration, de la répartition très vaste de ses immigrés, hein, contrairement aux Algériens qui, à l'étranger, habitent essentiellement en France, les Marocains sont aussi présents au Benelux, en Italie, en Espagne. Et donc, il y a des réseaux qui sont très efficaces parce que, aussi, il y a cette extension géographique de l'immigration marocaine.
Et aujourd'hui, un des aspects de la coopération entre Marocains et Français, c'est la lutte contre le terrorisme.
Pour ce qui est du Maroc, d'une part, peut-être de l'Afrique de l'Ouest et de l'Europe de l'Ouest, ça ne fait aucun doute. Si vous voulez, dans les années 60-70, le Maroc surveillait surtout ses opposants réfugiés en Europe. Beaucoup d'opposants au régime de Hassan II, etc., eux étaient réfugiés en France et étaient surveillés par ces services. Maintenant, la nouveauté, c'est que l'essentiel de la surveillance continue bien sûr de s'opérer sur les réseaux mafieux, et notamment l'exportation de drogue, de haschich, mais surtout sur l'islamisme. Et le tournant a été pris, on peut dire, définitivement à partir de 2001, parce que les attentats de New York, puis les attentats de Casablanca en 2003 et les attentats de Madrid en 2004 ont montré que les Marocains étaient impliqués. Et donc, depuis ce moment-là, les services marocains sont devenus très experts. Notamment, ils travaillent beaucoup avec les Américains, avec les Français, les Espagnols, mais aussi avec leurs homologues algériens et arabes sur la surveillance du djihadisme, du salafisme révolutionnaire. Ils ne sont pas du tout le seul acteur dans ce domaine, mais ils sont bien sûr un acteur tout à fait clé, oui.